France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Rares sont les philosophes à flatter aussi peu les humains, à vanter leur intelligence, leur capacité à raisonner, à penser ou à débattre. Pascal est pourtant de cela. Un anti-philosophe, pas dupe de la raison, de la comédie sociale et politique, de ce qu'on appelle le moi et qu'on convoque à tout va. Chose étonnante pour ce petit génie de la géométrie et de l'arithmétique, chose étonnante aussi à lire ses pensées qui n'ont rien de nihiliste. Mais comment vivre quand on sait que l'on n'est rien? Et à quoi bon apprendre quand la raison n'est pas si épatante? Cette semaine, on pense avec Pascal et aujourd'hui, on pense avec le cœur.
Vous savez pourtant que cela me déplaît. Vous devriez vous ménager. Croyez-vous que ça soit bon pour votre santé de veiller ainsi toute la nuit?
Je pensais vous faire plaisir.
Vous savez bien que moi aussi, tout comme vous, j'aime les calculs de géométrie. Mais vous y mettez, vous, beaucoup trop d'ardeur. Et de curiosité. Et vous y réussissez trop bien. Prenez bien garde que vos succès ne vous fassent croire à quelque grandeur.
Mon père, je sais que l'homme n'est grand que quand il se connaît misérable.
Ne sortez donc pas de cette idée et vous ne vous en porterez que mieux. Je prends néanmoins ce travail pour que nous restions tous deux en bonne intelligence et que nous puissions en parler. Mais tâchez dorénavant de réfréner cette soif de savoir qui vous entraîne en toute chose et peut vous induire en tentation.
Bonjour Pierre Guénantia.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de philosophie spécialisé en histoire de la philosophie moderne à l'université de Bourgogne, chargé de cours à l'ICP Institut catholique de Paris. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont deux sur Pascal. Le plus récent est paru en 2011 aux éditions Hermann sous le titre « Divertissement pascalien ». Je suis ravie d'ouvrir cette semaine avec vous, semaine entièrement consacrée à Pascal. On vient d'ouvrir cette semaine avec cet extrait du téléfilm de Rossellini de 1972 qui s'intitule « Blaise Pascal ». Qu'est-ce que vous pensez de cet extrait où on entend le père de Pascal un petit peu lui reprocher de trop travailler? Et là, Pascal, qu'on imagine tout petit déjà dire, enfin, ou adolescent, jeune adulte, dire oh « Oui, mais j'ai déjà compris que la grandeur de l'homme résidait en ce que l'homme est misérable. »
Je ne suis pas sûr qu'il l'ait compris tout de suite, cette antinomie entre la grandeur et la misère, qui est aussi une conciliation. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait compris tout de suite. On sait par des témoignages directs, de sa sœur par exemple, d'une de ses sœurs, qu'il se complaisait pas mal à l'étude des sciences et au prestige que cette étude peut donner auprès de ceux qui sont moins doués que lui. Et ils sont très nombreux, ceux qui sont moins doués que lui, et beaucoup moins nombreux ceux qui ont son génie, à la fois de mathématicien, d'expérimentateur. Il y a les expériences sur le vide aussi. Et tout cela dans un âge très, très jeune.
Enfin, oui, il faut dire quand même qu'à 16 ans, il écrit un traité sur les cônes.
Oui, sur les coniques, oui. Sur les coniques, oui. Oui, c'est sur le plan mathématique. Marc Aristote dit un mathématicien donne toute sa grandeur tout jeune. Un philosophe beaucoup plus tardif, ce qui est quand même rassurant, ce qui est en tout cas encourageant pour nous. Mais pour revenir à Pascal, je crois qu'il se complaisait beaucoup dans ses querelles, dans ses bagarres, dans ses batailles d'orgueil intellectuel, c'est-à-dire qui est le plus fort, quoi. Voilà,
Pascal était comme ça ?
Ah, je crois qu'il était comme ça, d'après le... Vous savez, on critique bien ce qu'on connaît de près, quand même. Donc, il connaissait très bien l'orgueil, et surtout l'orgueil intellectuel, la libido scindi, comme on dit dans le langage théologique. Il savait très bien que ce sont des péchés, d'une certaine manière, inhérents à l'activité intellectuelle. C'est, au fond, être le plus grand, être le plus fort. Et ça, en généralisant, ça donne justement une image de l'homme qui cherche à dominer les autres, et peut-être que c'est de là que vient la critique acerbe, la critique radicale, la critique vraiment spectrale, quoi, du moi. Mais je crois que derrière la critique du moi, il faut peut-être entrevoir le moi de Pascal, en tout cas le moi du jeune Pascal, qui justement, enfin, défiait les autres, ramenait les choses à lui, mais Voilà, il y a eu la conversion de Pascal, mm-hmm. et à partir de ce moment-là, Pascal est devenu d'une certaine manière à la fois le critique de lui-même et de tous les hommes. Mais c'est pas non plus, il n'a pas viré dans la misanthropie, parce que ça n'est pas quelque chose de... Il ne hait pas, d'une certaine manière, les hommes. Il est, chez les hommes, ce qui cherche à supplanter les autres, c'est-à-dire le moi. Le moi est haïssable, ça ne veut pas dire que les hommes le sont. Ça veut dire que est haïssable ce qui en chacun justement cherche à dominer les autres et à se faire le centre de tout.
Pascal est né en 1623, il est mort en 1662 et c'est à sa mort sur lui qu'on a trouvé des bouts de papier dispersés, qu'on a à ce moment-là rassemblés. C'est devenu les pensées. C'est la grande œuvre de Pascal. On connaît de Pascal ses pensées. Je ne sais pas si vous, par exemple, vous avez lu l'essai sur les coniques.
Bien sûr, on a parlé. J'ai même fait mon mémoire de maîtrise sur la géométrie et la géométrique pascalienne.
Alors moi, non, pas du tout. En tout cas, on connaît ses pensées. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'essai sur les coniques? C'est passionnant, c'est intéressant.
C'est très lointain pour moi.
Ah oui,
mais bon. Vous n'avez pas
commencé par les pensées?
J'ai commencé par l'épistémologie. La philosophie des sciences me passionnait. Je regardais d'un air un peu méprisant toute chose qui s'éloignait des sciences et de la philosophie des sciences. J'ai changé.
Vous étiez un peu comme Pascal, donc.
Oui,
vous regardiez un petit peu les autres de haut en ce qui concerne les autres sujets.
Non, je ne regardais pas les autres de haut. Je trouvais qu'il y avait dans la science et dans la constitution de la science quelque chose de très fort et de très fort philosophiquement, et peut-être plus fort que ce qui est strictement philosophique. Et du coup, je me suis intéressé sans doute aussi sous l'influence de Jean Toussaint de Santy, qui a été mon maître, mon professeur, mon ami, mon père spirituel. Je me suis intéressé aux textes mathématiques de Pascal, puis ensuite aux textes physiques de Pascal, et puis ensuite aux textes, entre guillemets, philosophiques, comme vous avez dit tout à l'heure, ou anti-philosophiques de Pascal.
Donc le commun des mortels, disons, passe plutôt par les pensées. Il y a beaucoup de textes, de mots qui sont presque devenus des slogans de Pascal sur l'impossible repos dans une chambre, le moi qui est haïssable, vous en avez parlé. Et puis il y a aussi évidemment ce fragment qui est très connu, le cœur a ses raisons que la raison, alors on dit ignore, mais en fait c'est ne connaît point. Pourquoi c'est important de commencer une semaine sur Pascal en s'intéressant à cette question du cœur, justement? En quoi c'est central? Et vous l'avez dit avant l'émission, alors je le reprends, Pierre Guénancé, en quoi le cœur est le cœur de l'œuvre de Pascal?
Oui, alors ça c'est très intéressant. Il y a deux choses qui sont tout à fait justes. Il est tout à fait important de commencer justement par le cœur, et il est tout à fait important de dire ce que le cœur n'est pas. C'est-à-dire de vraiment dissocier la signification très, très, à la fois profonde, large et technique que Pascal associe à ce terme de cœur, de ce que c'est devenu, c'est-à-dire, vous voyez, les histoires de, comme on dit, les histoires de cœur, je t'aime moi non plus, comme dirait l'autre, etc. etc.
Romantique,
si on veut, ou encore moins que ça, mais voilà, c'est-à-dire le cœur comme une sorte d'avachissement, d'une certaine manière, de l'esprit qui est prêt à consentir à n'importe quel compromis, pourvu qu'on l'aime, pourvu qu'on... Bon, non, ça, c'est rien, ça n'a absolument rien à voir avec la signification ou les significations du mot cœur chez Pascal. Moi, je crois que une bonne entrée, c'est celle-là, le cœur a ses raisons. Mais le cœur a ses raisons, ça ne veut pas dire que le cœur n'a pas de raison ou que le cœur est une anti-raison. Mais il y a, chez Pascal, des niveaux de la rationalité. C'est en ce sens qu'il est très moderne, même par rapport à Descartes. Vous voyez, par Descartes, la raison est quelque chose d'assez homogène, d'assez unifié. Voilà, elle n'a pas de strates, elle n'a pas de niveau, elle n'a pas d'instance de différenciation.
On est rationnel, par exemple, face à un objet. Oui. On a une raison qui peut appréhender.
C'est toujours la
objet.
Même, au fond, pour Descartes. C'est toujours la même. Qu'on étudie les passions, qu'on étudie la géométrie, les courbes, ou qu'on étudie les idées claires et distinctes de l'entendement, c'est toujours la raison et c'est toujours la même raison. Tandis que chez Pascal, je crois qu'il y a une différence entre les niveaux d'intellectualité ou les niveaux de compréhension et le type d'objet auquel, justement, cette compréhension a affaire. Alors, le cœur a ses raisons parce qu'il a aussi ses objets, qui ne sont pas ceux de la raison. La raison a pour objet, mettons, la grandeur de l'univers, elle a pour objet le raisonnement, les formes du raisonnement, elle a pour objet peut-être une certaine sagesse pratique, d'accord. Mais est-ce qu'elle a pour objet ce qui touche au plus profond de l'homme ? Non, pour Pascal. Ce qui va au plus profond de l'homme, c'est justement le cœur. Parce que le cœur est à la fois l'instrument qui descend le plus profondément dans l'homme, et c'est ce qu'il y a justement de plus profond dans l'homme. Donc en fait, l'instrument, il est accordé à l'objet vers lequel il tend. Mmh. Le cœur, si je puis dire, comprend bien le cœur, et pas autre chose. Et au fond, ça veut dire qu'il faut une instance spéciale, ce qu'il n'y en a absolument pas chez Descartes, il faut une instance spéciale, il faut d'une certaine manière une conversion peut-être de son esprit vers un mode d'intelligence, d'intelligibilité, qui est réfractaire au fond à celui de la rationalité commune. Ça ne veut pas dire que c'est anti-rationnel ou irrationnel, ça veut dire que c'est une autre manière de déployer la perspicacité, la finesse d'ailleurs, c'est un terme très pascalien, de son esprit. Le cœur, c'est au fond l'esprit quand il devient fin, c'est-à-dire quand, au lieu de chercher à associer des propositions, à les démontrer les unes après les autres, ce qui est important et ce qu'il faut faire, cherche d'une certaine manière à saisir, à percevoir l'élémentaire.
On va écouter, Pierre Guénoncia, ce fameux fragment qui a un petit peu recouvert justement cette approche du cœur chez Pascal.
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. On le sait en mille choses. Je dis que le cœur aime l'être universel naturellement et soi-même naturellement selon qu'il s'y adonne, et il se durcit contre l'un ou l'autre à son choix. Vous avez rejeté l'un et conservé l'autre. Est-ce par raison que vous vous aimez ? C'est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison.
Alors voici ce fameux fragment 423, on a aussi écouté le fragment 424. Alors je précise tout de suite dans l'édition La Fuma, parce que c'est important, il y a différentes éditions, Cellier, Brunswick. Là on va s'appuyer aujourd'hui sur l'édition La Fuma. Et on a donc entendu « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Vous l'avez dit, Pierre Guénoncia, il faut tout de suite écarter l'approche, j'ai dit romantique, mais on va dire sentimentale, en fait, du cœur. Le cœur, chez Pascal, c'est une manière de connaître, comme la raison. Mais le fragment 424 nous dit ceci, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Pourquoi tout à coup Dieu apparaît alors que dans l'émission que l'on va avoir, là, Pierre Guénoncia, on parle de connaissance. Pourquoi il y a Dieu dans cette affaire ? Pourquoi on a besoin du cœur pour connaître certaines choses, mais aussi pour connaître Dieu ?
Eh bien, parce que ce n'est pas le même type de connaissance. Mais encore une fois, le cœur est un instrument de connaissance, de la même manière que la raison. Mais c'est un instrument de connaissance qui est accordé à un objet, si on peut parler comme ça, qui est en affinité avec lui, et il n'y a pas plus d'affinité avec le cœur que Dieu. C'est pas le Dieu auteur des vérités géométriques, c'est pas le Dieu des savants et des philosophes.
C'est pas le Dieu de Descartes.
De Galilée, c'est pas le Dieu des savants et des philosophes. Mmh. C'est-à-dire, ce n'est pas un Dieu qui explique ou dont la position première permet d'expliquer justement l'ordonnance du monde et les différentes fonctions de chacune des choses. Ça, c'est un Dieu qui, d'une certaine manière, sert la raison. Tandis que le Dieu auquel Pascal croit, d'ailleurs, plus qu'il cherche à connaître, c'est pas un Dieu qui sert la raison. C'est un Dieu qui réchauffe le cœur de l'homme. C'est un Dieu qui a une proximité avec soi, mais avec un soi qui s'est, d'une certaine manière, épuré de toutes les scories de l'amour propre et de l'intérêt pour le monde, d'une certaine manière. Donc, en fait, le cœur, c'est le cœur qui sent Dieu, à condition de faire le vide en soi, c'est-à-dire de laisser l'intérêt pour le monde, de laisser l'intérêt pour soi, et de se tourner vers ce qui, justement, mérite notre attention et notre amour, notre amour infini, c'est-à-dire justement ce que Pascal appelle Dieu, et qui est au fond beaucoup plus le Dieu-homme, c'est-à-dire qui est beaucoup plus le Jésus-Christ que le Dieu de Descartes, c'est-à-dire infini, parfait, ou le Dieu des théologiens rationnels, c'est-à-dire qui au fond a pour fonction d'expliquer, de justifier l'ordre du monde. Là, chez Pascal, c'est plutôt le désordre du monde que l'ordre du monde qui pose problème et qui nous conduit justement à Dieu. Il y a comme une sorte d'incompatibilité entre finalement le séjour dans le monde, un séjour industrieux, un séjour effectif, enfin sérieux, quoi, et la recherche de Dieu, étant entendu que cette recherche est la seule qui peut remplir un cœur d'homme, justement.
Mais ça, c'est ce que pense Pascal.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais on pourrait penser tout à fait autrement. Vous avez parlé de conversion chez Pascal. Il y en a plusieurs. Il y en a une au moment où son père est blessé à la jambe. Il est soigné par deux médecins jansénistes. Alors là, il a un rapport. Il découvre le jansénisme. On est en 1646. Après, en 1654, il y a la nuit d'extase.
Oui, c'est ça.
Voilà, nuit de feu. Là, il y a beaucoup de philosophes...
Joie, pleurs de joie.
Voilà, qui ont des accidents comme ça, de la circulation, et puis qui ont tout à coup des conversions. Je pense aussi à Paul Valéry, par exemple.
Oui.
Voilà, qui a eu... Alors lui, il n'a pas eu un accident de la route, mais voilà, il a fait une crise d'angoisse à Gênes. Puis alors, tout à coup, converti, quoi. Alors, on se demande pourquoi, tout à coup, Pascal a cette révélation. Pourquoi il se dit que la seule chose qui vaille dans ce monde, dans le désordre du monde, c'est de rechercher Dieu. Comment ça s'explique, sans être psychologique, en fait.
Peut-être parce que, comme tous les génies, il va beaucoup plus vite que tout le monde. Et donc, je crois qu'il a épuisé la joie et la richesse du monde en très peu de temps. Il en a fait le tour, comme on dit vulgairement. Aussi bien dans les sciences que dans la pensée, que peut-être aussi dans les plaisirs mondains. Parce qu'attention, les fragments magnifiques, les fragments sur le divertissement, sont aussi peut-être un peu autobiographiques aussi. C'est-à-dire que Pascal décrit une vie qui n'est pas une vie de luxure, qui est une vie de divertissement au sens de même sérieux. C'est-à-dire faire de la géométrie, c'est un divertissement.
On l'entend dans l'extrait avec son père qui lui dit « tu te complais à travailler toute la nuit ».
Alors qu'au fond, il faut se détourner, ce qui est le sens de divertissement, et vers quelque chose. Et donc, je crois que c'est la précocité de Pascal qui fait qu'en un rien de temps, finalement, il a épuisé les joies du monde, aussi bien intellectuelles que sensibles, et qu'il aspire, comme toute grande âme, à quelque chose qui remplisse cette âme, justement, au lieu de simplement glisser sur elle. Et ce quelque chose, si je puis m'exprimer ainsi, c'est Dieu, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut nommer, d'ailleurs on peut pas dire un être transcendant, tout puissant, etc. Tout ça, c'est parti du vocabulaire philosophique dont Pascal ne veut pas, d'une certaine manière. Il veut quelque chose d'adapté à son objet. Et c'est pour ça que le cœur apparaît comme justement la chose qui... à la fois se sépare de la raison commune et de la science, de l'intelligence technique, mais qui en emprunte d'une certaine manière aussi la motivation fondamentale, c'est-à-dire connaître. Le cœur, c'est pas une instance d'aveuglement. C'est la demande d'une plus grande lumière ou d'une lumière plus pure, je ne sais pas. Mais ça n'est pas quelque chose pour se bander les yeux et pour avancer dans le noir. Il est, comme tous les gens de son époque, toujours attiré par la lumière.
Ça, c'est vraiment intéressant, Pierre Guénantia. Ça veut dire que le cœur nous ouvre la possibilité d'une connaissance autre du monde, d'une autre lumière, vous avez dit, mais donc aussi d'une autre manière de conduire sa vie.
Oui. D'une autre manière, c'est ça, une conversion, c'est au fond de voir les mêmes choses, mais d'un autre côté, depuis un autre site. Et c'est ça, je crois, la conversion. Il a changé de point de vue, il a changé de site. Il ne voit plus les choses dans le monde comme sont les hommes dans le monde. Il les voit, pour ainsi dire, hors du monde. Et les voyant hors du monde, il peut en voir la vanité, la limite.
Mais ça peut nous arriver. Ce que vous dites, Pascal est un génie, il a fait vite le tour.
Ça peut nous arriver, mais avec plus de temps, et avec moins de moyens intellectuels, et avec moins de succès philosophique. Mais ça peut nous arriver, oui, je crois, à tout moment. Il y a une sorte de lassitude qui vient justement du fait qu'on a le sentiment, non pas qu'on a tout compris, mais que ce qu'on va comprendre rentre dans ce qu'on a déjà compris. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qui est en un sens la pire des phrases qu'on puisse entendre, parce que justement, c'est ce à quoi on aspire. On aspire à ce que chaque jour soit un jour nouveau, et que le soleil soit un soleil nouveau. Et de ce point de vue, on est sensible à la quête pascalienne, même si c'est une quête effrénée, même si c'est une quête... Il y a quelque chose de fou quand même dans cette exigence terrible, hyperbolique, enfin de vérité, de joie d'une certaine manière aussi. Hein. Mais je pense que malgré tout, vous savez, si Pascal nous intéresse, je dirais ça d'ailleurs de tous les philosophes, c'est parce que d'une certaine manière, on fait la même chose que lui, hein, ou on va dans le même chemin que lui, ou en tout cas, on en a l'idée. Sinon, si vous voulez, on lirait ça comme un papyrus, quoi, hein, c'est pas comme un texte qui n'est justement pas un texte, mais un dialogue, hein, quelqu'un qui nous parle et on essaie force de répondre.
Vous avez dit, monsieur, que vous aviez appris à conduire vos pensées en commençant par les objets les plus simples pour monter peu à peu vers les plus compliqués. Pour établir cette belle construction, il vous faut donc des fondements dont la solidité ne fasse aucun doute. Or, le seul fondement que vous nous proposez est le discernement de votre raison, qui est ici, je l'entends bien, le symbole de toute raison humaine. Or, cette raison me semble très peu assurée de la place qu'elle occupe dans le monde. Elle existe, certes, mais située malaisément entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et telle que vous la décrivez vous-même, déçue par l'inconstance des apparences, incertaine quant à ses limites. De plus, ce n'est pas elle, mais le cœur qui nous dit qu'il y a trois dimensions dans l'espace. Et donc ce n'est pas par continuité de raisonnement, mais bien plutôt par intuition brutale et rupture que nous réussissons à partager entre nous quelques certitudes.
Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c'est en vain que le raisonnement, qui n'y a point de part, essaie de les combattre. Le cœur sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace et que les nombres sont infinis. Et la raison démontre ensuite qu'il n'y a point deux nombres carrés dont l'un soit double de l'autre. Les principes se sentent, les propositions se concluent, et le tout avec certitude, quoique par différentes voies. Et il est aussi inutile et aussi ridicule que la raison demande au cœur des preuves de ses premiers principes pour vouloir y consentir, qu'il serait ridicule que le cœur demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu'elle démontre pour vouloir les recevoir. Cette impuissance ne doit donc servir qu'à humilier la raison, qui voudrait juger de tout, mais non pas à combattre notre certitude, comme s'il n'y avait que la raison capable de nous instruire. Plût à Dieu que nous n'en eussions au contraire jamais besoin et que nous connaissions toutes choses par instinct et par sentiment. Mais la nature nous a refusé ce bien. Elle ne nous a au contraire donné que très peu de connaissances de cette sorte, toutes les autres ne peuvent être acquises que par raisonnement.
Fragment 110 de l'édition La Fumade des pensées de Pascal, Pierre Guénantier. Alors, il y a énormément de choses à décortiquer dans ce fragment. Les termes de preuve, d'humilier, la raison. On peut commencer quand même par celui de vérité. On l'a entendu au début du fragment. Pascal dit « Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. » C'est une chose qui semble simple à comprendre, hein, on en a parlé, mais j'aimerais quand même savoir de quelle vérité nous parle Pascal. Est-ce qu'il nous parle de voir autrement des choses que l'on connaît déjà par la raison, ou est-ce qu'il nous propose de découvrir une autre vérité, d'autres choses ?
Oui, je pencherai assez fortement d'ailleurs pour la première de vos hypothèses, C'est-à-dire, je crois que c'est un texte au fond très classique, un des textes les plus classiques de Pascal, c'est-à-dire qui pourrait parfaitement rentrer dans un spicilège, si vous voulez, d'épistémologie rationnelle, consistant à dire, ben, il y a deux sources de la connaissance, il y a le cœur et la raison, Kant dirait la sensibilité et l'entendement, le découpage est à peu près le même, et donc Pascal nous explique que, mais il le dit dans l'esprit géométrique, les messieurs de Port-Royal, Arnaud et Nicole, le reprendront dans la logique ou l'art de penser. Il s'agit de dire, au fond, tout simplement, qu'on ne peut pas tout définir et tout démontrer, et donc qu'il y a, au départ de tout raisonnement, de toute démonstration, il y a des choses qui sont connues par elles-mêmes, des choses qui sont évidentes, sans qu'on puisse creuser cette évidence, ni la justifier par des démonstrations rationnelles. Mais ça, tout le monde le dit, Descartes aussi le dit, qu'il y a des choses qui seraient complètement inutiles de prouver, leur définition obscurcirait leur intelligence, leur connaissance.
Comme donc, quoi, par exemple, le temps
Par exemple, le temps, le nombre, là aussi, on peut reprendre les termes, hein, l'espace, etc. Mais il n'y a pas chez Descartes une dualité entre le type d'intuition qui serait celui des premiers principes et le type de rationalité qui serait celui de la démonstration. Ça se suit. Tandis qu'on a l'impression ici, avec le texte de Pascal, et c'est là la différence, qu'il y a un hiatus. C'est-à-dire qu'on change
de registre.
Comme une modulation de fréquence. Oui. On change de
fréquence.
Oui, de fréquence, voilà. Et on ne peut pas comprendre de la même manière les premiers principes et ce qui suit. Les premiers principes se donnent, d'une certaine manière, à l'esprit comme évident. C'est pour ça qu'il y a un verbe et un adjectif et un substantif très présent dans ce texte, c'est sentir. Oui. Sentiment, les principes se sentent. C'est comme s'il y avait, au fond, une sensibilité qui était, ou un sentiment, une sensibilité irréductible à la raison, non pas au sens où elle serait irrationnelle, mais au sens où ce serait un mode d'appréhension qui serait tout à fait propre. C'est, en fait, même le seul mode d'appréhension. Parce que la raison, elle n'appréhende pas, elle construit, elle démontre. Un mathématicien démontre.
Alors que le cœur sent.
Alors que le cœur sent, c'est-à-dire qu'il a cette sorte d'intimité, d'une certaine manière, de connaturalité avec la vérité, qui fait que il ne se pose même pas la question de savoir si c'est vrai ou c'est faux. C'est pour ça que, par exemple, une entreprise comme celle de Descartes du doute n'aurait pas de sens chez Pascal. On ne peut pas douter que nous sommes en train de parler ou que ce serait complètement factice, ce serait artificiel.
Bah d'ailleurs, chez Descartes, c'est un petit peu factice aussi.
Oui, mais c'est
le doute est une méthodologie.
Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que c'est dans une entreprise, quoi. C'est quelque chose.
C'est presque qu'il instrumentalise le doute
bien
pour
sûr,
en faire quelque
bien
chose.
Sûr. C'est pas un doute vécu. Hein, bien sûr
c'est pas la nuit d'angoisse, mais il a aussi une nuit d'angoisse.
Oui, mais elle n'est pas
Descartes.
Angoissante. Vous savez, chez Descartes, pas plus que chez Sartre, qui en a pourtant beaucoup parlé, il y a de l'angoisse. C'est pas quelqu'un qui connaît ce genre d'affect, je crois.
Vous, Pierre Guénantia, vous dites que Descartes n'était pas angoissé.
Non, je crois qu'il n'était pas angoissé, non, pas du tout. Non.
À quoi vous dites ça?
Je pense que Sartre non plus n'était pas. C'est même lui qui le dit. Il dit j'ai beaucoup parlé d'angoisse, dit Sartre, mais je n'ai jamais éprouvé ça.
Et pourquoi vous pensez ça de Descartes?
Parce qu'il y a une manière d'avancer dans la pensée qui est une façon tranquille, si je puis dire. C'est-à-dire qui n'est pas, où il n'y a pas d'inquiétude. Il y a des limites, on les connaît, on sait qu'on ne va pas trouver la vérité ultime, mais on progresse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait que Descartes n'est pas angoissé, on va revenir à Pascal quand même, à mon avis, c'est que d'une certaine manière, il n'a pas une exigence démesurée. Ce qu'a Pascal.
Voilà.
Pascal, il veut la vérité vraie, si je puis
voilà,
dire.
C'était ça la question du début. Ouais. C'est-à-dire que quelle vérité il parle? Quelle est la quête de Pascal qui le rend justement inquiet et où on sent en fait cette angoisse? Alors, il y a aussi quand même un petit peu d'humour quand on lit ses pensées.
Oui, bien sûr, beaucoup.
Il tacle tout le monde. Les philosophes, d'ailleurs, on l'entend bien d'ailleurs à travers ce texte.
Sûr,
c'est quand même une manière de dire, vous critiquez les sens, ce qui est de l'ordre du sens, du sentiment. Mais moi, je vous dis que c'est là que se situe la voie d'accès à la vérité.
Mais beaucoup de philosophes disent la même chose que lui. Hein. Ils ne le disent pas aussi bien, déjà, et ils ne le disent pas forcément dans le sens qui est le sien. Mais beaucoup de philosophes disent qu'on connaît les Aristote, par exemple, bien sûr, dit qu'on connaît, encore une fois, Descartes, plus tard Spinoza, évidemment Kant, qu'il y a des choses desquelles il faut partir sans qu'on puisse justifier ce point de départ.
Et beaucoup d'entre eux disent aussi qu'il y a des limites à la raison.
Oui.
La raison ne peut pas tout connaître.
Oui.
Mais ce que disent aussi ces philosophes et que Pascal ne semble pas dire ici dans ce texte, c'est que tout ce qui est de l'ordre de ce que l'on croit, de ce sens, de voilà, quand il dit « je crois, je sens, le cœur sent », ils l'ont aussi beaucoup, ces philosophes, critiqué en disant « c'est trompeur ». Qu'est-ce qui, chez Pascal, nous garantit en fait d'atteindre la vérité quand les sens... Moi, vous voyez, Pierre Ganancia, il y a des choses que je crois dures comme fer, peut-être que je me trompe. Comment il répond à ça, Pascal ? L'écueil de l'erreur, de l'incertitude, de la preuve,
si vous
justement,
voulez, la certitude chez Pascal, ça n'est pas quelque chose qui résulte d'une démonstration. Les démonstrations mathématiques sont certaines. Certaines peuvent être évidentes. Mais la certitude à laquelle Pascal aspire, c'est beaucoup plus une certitude du cœur qu'une certitude de la raison. C'est-à-dire, déjà, le fait que je ne me trompe pas, et le fait que les vérités auxquelles je peux accéder, ou plus exactement les vérités, la vérité à laquelle je peux accéder, c'est pas une vérité dont je peux faire le tour, c'est une vérité qui s'empare de moi. C'est une vérité qui me submerge d'une certaine manière. C'est ça, je crois, l'ambition de Pascal, c'est de se faire ravir d'une certaine manière son esprit, la clarté de son esprit, la méthode qu'il suit, etc., par quelque chose d'infiniment supérieur à nos moyens démonstratifs, rationnels, mondain, quoi, d'une certaine manière.
Mais ce qui veut dire qu'il y a presque deux types de vérités chez Pascal. Il y a celle qu'on peut démontrer,
oui,
d'accord, ok.
Oui,
bon,
oui.
Il y en a donc trois. Il y a celle-ci, à base de preuves et de démonstrations. Mais il y a aussi celle qu'on ne peut démontrer, on l'a dit, le temps, les coutumes, l'espace. Mais il y a aussi celle dont vous semblez parler, Pierre Ganancia, qui est une vérité qui s'empare de nous, qu'on atteint, qui semble presque autre, comme si c'était un peu un message qui, tout à coup...
vient d'ailleurs.
Voilà.
Qui vient d'ailleurs.
Alors, c'est quoi cette vérité ?
C'est une vérité révélée. C'est la vérité de la révélation, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien à l'homme, selon Pascal, si on ne sait pas qu'il y a deux natures en lui, une nature pré-lapsaire, avant le péché, une nature corrompue, et que ces deux natures se livrent, d'une certaine manière, un combat à l'intérieur de l'homme. Et ça, ce n'est pas une vérité que la raison peut découvrir par elle-même, c'est une vérité qui lui survient, d'une certaine manière, et qu'il faut qu'elle aille chercher. Et dès lors qu'elle va la chercher, pour Pascal, tout s'éclaire. Mais ça ne s'éclaire pas comme s'éclairent les démonstrations métaphysiques de Descartes. Ça s'éclaire d'une lumière, pourrait-on dire, subjective, c'est-à-dire d'une lumière qui touche notre cœur et qui nous ravit au sens même étymologique du ravissement, qui nous emmène, qui nous emporte, qui nous délivre de ce moi qui cherche toujours à rester en place d'une certaine manière et à ramener les choses à lui. En ce sens, c'est ça. Le cœur, c'est peut-être la seule possibilité qui est donnée à l'homme de se débarrasser de lui-même comme égo suffisant, voire autosuffisant. Au fond, c'est une porte de sortie, le cœur. C'est une porte de sortie du soi. C'est la porte de sortie du soi. Et donc, de ce point de vue, aussi bien... Quand on a des vérités comme celle première, quoi, comme le temps, l'espace, ça ne veut pas dire qu'on les comprend, ça veut dire qu'on sait ce que ça veut dire. Dire qu'on comprend le temps, ça ne veut pas dire qu'on en comprend l'essence, ça veut dire qu'on sait ce que le mot signifie. Il y a tout un nominalisme chez Pascal. Bon, il y a ces vérités-là, mais qui sont de peu d'importance, au fond, pour la vie. Pascal dit, on donnerait toute la géométrie pour une chose de grâce, quoi, un message de la grâce. Mais il y a aussi toutes les vérités qui sont beaucoup plus de notre portée, comme sont les vérités sur l'homme. Parce que malgré tout, les pensées, c'est au départ une apologie de la religion chrétienne, mais qui passe par, je ne veux pas dire une théorie de l'homme, mais malgré tout, oui, quand même quelque chose comme ça.
Une anthropologie, un petit peu.
Une anthropologie, peut-être une anthropologie. Il faudrait trouver peut-être...
Un traité de la nature humaine.
Oui, ce serait trop philosophique, ça. Ce serait trop, et en ce sens, trop prétentieux. Comme si on pouvait faire le tour de la nature humaine.
Oui.
Quelque chose, en tout cas, une réflexion sur l'homme.
Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, Pierre Ganancia, c'est vraiment cette idée de vérité qui nous ravit, qui s'empare de nous ce combat en l'homme.
Oui.
Entre quoi ? Entre la misère et la grandeur, justement ?
Oui, entre ce qui le pousse vers le bas et ce qui l'attire vers le haut. Étant entendu que les forces ne sont pas égales.
Une contrariété.
Ce qui nous pousse vers le bas étant beaucoup plus important, au point de vue poids, étant beaucoup plus lourd que ce qui susceptible de nous élever.
Et est-ce que ce que découvre aussi Pascal, c'est pas seulement ce combat, mais aussi une sorte de vacuité humaine, c'est-à-dire à
bien
quoi
sûr,
bon
oui.
Ah, parce que le combat, à la limite,
bien sûr, oui.
Je peux me dire que ça anime une existence. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on va vers quelque chose qui nous porte? Est-ce qu'on fait quelque chose qui nous semble juste, qui a notre agrément, mais profond? Mais découvrir qu'on n'est rien, que la vie n'a pas de sens, ça, c'est beaucoup plus difficile comme lumière et pour négocier avec cette découverte.
Oui, mais vous voyez, Pascal est un joueur. S'il n'y a pas ça, alors le reste ne vaut rien. Vous voyez, s'il n'y a pas quelque chose qui est d'une lumière infiniment supérieure à celle qu'on peut obtenir par nos petites recherches, ça ne vaut pas le coup de passer son temps à passer. On passera d'une chose à une autre, voilà, et on mourra, comme il dit, seul, de toute façon, sans la compagnie des hommes et sans avoir. Non, c'est sûr qu'il y a une. C'est en ce sens qu'on a fait de Pascal un précurseur, j'ai horreur de ces termes-là, de l'existentialisme, au sens où il a conscience de la vanité, comme vous avez dit, de l'existence. Je ne veux pas dire de l'absurdité, ce ne serait pas tellement ça. De la vanité, c'est-à-dire, au fond, que nos efforts. Qui peuvent être sincères et importants, ne mènent pas à grand-chose. Et qu'il faut changer de terrain si on veut que le gain, pour parler comme dans le pari, soit à la hauteur de l'effort qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a toujours de sa part une volonté de montrer que, au fond, tout ce à quoi l'homme accorde du prix n'est rien à côté de ce qui seul peut lui apporter, si ce n'est le bonheur, si ce n'est la joie, du moins la vérité.
La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit. La grandeur des gens d'esprit est invisible au roi, au riche, au capitaine, à tous ces gens de chair. La grandeur de la sagesse, qui n'est nulle sinon de Dieu, est invisible aux charnels et aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres différents de genre. Mais il y en a qui ne peuvent admirer que les grandeurs charnelles comme s'il n'y en avait pas de spirituelles, et d'autres qui n'admirent que les spirituels comme s'il n'y en avait pas d'infiniment plus haute dans la sagesse. Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et ses royaumes ne valent pas le moindre des esprits, car il connaît tout cela et soi, et les corps, rien. Tous les corps ensemble et tous les esprits ensemble et toutes leurs productions ne valent pas le moindre mouvement de charité. Cela est d'un ordre infiniment plus élevé. De tous les corps ensemble, on ne saurait en faire réussir une petite pensée. Cela est impossible et d'un autre ordre. De tous les corps et esprits, on ne saurait tirer un mouvement de vraie charité. Cela est impossible et d'un autre ordre, surnaturel.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Fragment 308 des Pensées de Pascal, édition La Fuma. C'est vous, Pierre Guénantia, qui avez indiqué ce fragment, cette pensée pour cette émission sur le cœur. Alors, à quel moment est-il question de cœur dans ce texte qui, pas une seule fois, ne le donne à entendre?
Eh bien... Bonne question. Je crois, non, mais c'est aussi une particularité de cette notion de cœur. J'ai buté sur le mot notion parce que j'allais dire concept, mais il ne faut pas parler de concept.
Parce surtout pas chez Pascal.
C'est pas concevable, d'une certaine manière. Hein, c'est pas concevable. C'est expérimentable, mais c'est pas concevable, le cœur. Je crois. Alors, où on peut trouver le cœur ici, je crois que c'est dans le troisième ordre, c'est-à-dire l'ordre de la charité. Bien sûr, le terme n'y est pas, mais il y a plusieurs fragments de Pascal sur les trois ordres. On peut même considérer que la thématique des trois ordres est le cœur de la pensée de Pascal. Vraiment, c'est là. À la différence des trois notions primitives chez Descartes, le corps, l'âme, l'union de l'âme et du corps, il y a chez Pascal trois ordres de choses. Ce ne sont pas des natures de choses, ce n'est pas ontologique, c'est hiérarchique. C'est axiologique, d'une certaine manière. C'est-à-dire, ce qu'il y a en dessous, c'est ce qui vaut moins, etc. Et on va vers ce qui vaut le plus. Et ce qui vaut le plus, c'est ce troisième ordre, c'est-à-dire la grandeur de la sagesse. Hein, ce sont trois ordres différents. La grandeur est invisible au charneur. La sagesse, c'est ce terme de sagesse. Et bien, au fond, il est synonyme de celui de cœur. Il y a plusieurs synonymes. Sagesse, il y a charité, il y a volonté, il y a cœur. D'une certaine manière, ces termes sont substituables les uns aux autres. C'est-à-dire qu'ils désignent tous ce qui, justement, est irréductible dans notre esprit, et dans notre vie d'ailleurs, est irréductible à ce qui est de l'ordre intellectuel, les grandeurs d'esprit, hein, les grands par l'esprit, Archimède qui est le prince des savants, comme il dit, et les grandeurs charnelles, par quoi il faut entendre la puissance, les rois, l'argent, les honneurs, etc., etc. Ça, tout ça, c'est de l'ordre du corps, parce que c'est de l'ordre de ce qui se voit, c'est de l'ordre de ce qui s'éprouve d'une manière charnelle et sensible.
De ce qui fait plaisir aussi, de l'agréable.
De ce qui fait plaisir, de ce qui est... Voilà, c'est ça. Mais aussi de ce qui nous oppose les uns aux autres, et de ce qui nous hiérarchise d'une certaine manière. Voilà, et à cela, Pascal n'oppose pas, mais de cela, Pascal distingue l'esprit et les grandeurs d'esprit, qui sont invisibles aux yeux des grands de chair, mais qui ne sont visibles qu'aux yeux de ceux qui pratiquent l'esprit. Au fond, voilà, un mathématicien peut admirer ou mépriser d'ailleurs un autre mathématicien, mais il se fichera pas mal des grandeurs de cours ou des grandeurs mondaines ou des fétiches mondain. On dira ça en gros. Hein, peut-être pas d'ailleurs, mais bon, c'est, voilà. Il a autre chose à penser. Voilà. Et plus exactement, son ambition, elle est tournée vers d'autres biens que ceux du monde charnel. Mais tout ça, au fond, pour Pascal, n'est rien. Ni les grandeurs du corps, ni les grandeurs... comparé aux grandeurs de la sagesse, c'est-à-dire à la grandeur du troisième ordre, qui n'est pas une grandeur comme une autre. Qui n'est pas une grandeur qui se voit, qui s'estime et qui se compare, qui est une grandeur d'un ordre tout à fait différent.
Et irréductible, on dit.
Irréductible aux deux ordres et qui n'est pas mesurable par les mêmes instruments que les deux ordres.
C'est-à-dire que bien du corps, bien de l'esprit sont mesurables effectivement à des signes extérieurs.
Bien sûr, bien sûr.
Des diplômes. Des médailles, de la reconnaissance.
J'ai démontré ça avant toi. Bon, Pascal ne se prive pas de ce genre de choses.
Hein. Et on peut sauter d'un ordre à l'autre. C'est-à-dire qu'on pourrait passer de puissant à grand scientifique. Ou un grand scientifique qui devient impuissant.
Peut-être, mais ça c'est accidentel. C'est deux grandeurs différentes quand même.
Ah, ça reste deux grandeurs différentes. Mais le troisième, en tout cas, cette ordre de la sagesse, du cœur, de la charité, de la volonté.
Voilà.
Ça c'est tout autre chose.
C'est un autre ordre. C'est une grandeur. Vous savez, dans ses écrits mathématiques, Pascal avait distingué des ordres de grandeur dans la somme des puissances numériques, des ordres de grandeur. Et les grandeurs, il y a des grandeurs inférieures qui font rien dans un autre ordre de grandeur, des incommensurables d'une certaine manière. Eh bien là, il y a une application de ça, c'est-à-dire que la grandeur de la charité est incommensurable. On ne peut pas la mesurer par les gradients, si vous voulez, qui sont les nôtres dans le domaine du cœur ou de l'esprit. C'est d'un autre ordre. C'est pour ça que je vous disais qu'au fond que le cœur, ce n'est pas simplement un instrument, c'est un instrument qui est accordé à ce dont il est l'instrument. Et donc, ce n'est pas quelque chose à quoi on peut arriver. On ne peut pas apprendre à user du cœur. On ne peut pas l'apprendre.
Mais tout le monde a du cœur. Pierre Guénantier, alors pourquoi on n'est pas tous capables, à un moment donné, de s'en servir autrement? Et puis même quand je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que ça peut nous arriver sans forcément passer par un accident de la circulation et une conversion, mais d'avoir fait le tour, d'en avoir marre, et donc du coup de dire « je veux sentir avec le cœur
oui, ».
Est-ce que ça se... Puis en plus, Pascal, vous l'avez dit, il y a le synonyme de volonté. Est-ce que ça se décide? Est-ce que ça se veut?
Ça se veut, oui. mais ça se veut pas forcément d'une manière consciente et délibérée. C'est pas la résolution cartésienne, hein. Je me décide pas un jour pour faire ceci et puis je m'y tiens. C'est, encore une fois, là, c'est de l'ordre du rapt, c'est-à-dire il faut se mettre dans la situation d'être enlevé par quelque chose de supérieur à soi. Il faut se mettre dans la situation de passivité, de réceptivité, qui justement va nous, peut-être nous permettre, mais peut-être, hein, les écrits sur la grâce montrent que rien n'est gagné de ce point de vue-là, nous enlever d'une certaine manière à ce relatif qu'est aussi bien l'esprit que le corps.
Oui, mais je trouve ça presque décevant, vous voyez, Pierre Guénantia, moi qui suis éblouie quand je lis les pensées de Pascal, de me rendre compte qu'il pense ainsi, parce que c'est comme si il me disait « tu ne pourras rien y faire, tu n'y peux rien, peut-être seras-tu choisi, peut-être pas, tant pis pour toi, peut-être auras-tu une vie médiocre dans l'ordre du corps. »
Ben oui, mais c'est voilà, ce que disent pas mal de théologiens, et notamment ça les théologiens luthériens.
Mais ça ne vous pose pas un problème, Pierre Guénantia? Ça ne vous dites pas, ben ça reste une pensée presque élitiste ou qui de la non-liberté?
Je ne dirais pas de la non-liberté, non. Je crois qu'il y a chez Pascal une signification positive de la liberté, qui n'est pas évidemment celle du libre-arbitre cartésien, qui n'est pas non plus la liberté transcendantale kantienne, mais qui est quand même le pouvoir de choisir. Ça, c'est absolument... Même s'il est corrompu, ce pouvoir. De toute façon, tout est corrompu en nous. Le cœur est plein d'ordures, hein, dit Pascal dans un autre
fragment. On va l'écouter. Vous voulez qu'on l'écoute?
Allez.
Allez.
On charge les hommes, dès l'enfance, du soin de leur honneur, de leurs biens, de leurs amis, et encore du bien et de l'honneur de leurs amis. On les accable d'affaires, de l'apprentissage des langues et d'exercices, et on leur fait entendre qu'ils ne sauraient être heureux sans que leur santé, leur honneur, leur fortune et celle de leurs amis soient en bon état, et qu'une seule chose qui manque les rendra malheureux. Ainsi, on leur donne des charges et des affaires qui les font tracasser dès la pointe du jour. Voilà, direz-vous, une étrange manière de les rendre heureux. Que pourrait-on faire de mieux pour les rendre malheureux? Comment ce qu'on pourrait faire? Il ne faudrait que leur ôter tous ces soins. Car alors ils se verraient, ils penseraient à ce qu'ils sont, d'où ils viennent, où ils vont, et ainsi on ne peut trop les occuper et les détourner. Et c'est pourquoi, après leur avoir tant préparé d'affaires, s'ils ont quelque temps de relâche, on leur conseille de l'employer à se divertir, à jouer et à s'occuper toujours tout entier. Que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures.
Fragment 139 des pensées de Pascal dans les éditions La Fuma, avec cette phrase, Pierre Guénantia, que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Alors on peut connaître les pensées de Pascal sur le divertissement. Hein. L'homme se divertit pour oublier sa condition misérable. Mais alors cette phrase, que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures, elle est assez frappante. On dirait vraiment qu'il me dit, t'es vraiment qu'une ordure, quoi. Enfin vraiment, on peut le lire comme ça de manière très actuelle.
Oui.
D'ailleurs, on n'avait pas commenté dans une pensée précédente cette question d'humilier la raison. Alors humilier au sens de rendre humble la raison. Mais aujourd'hui, il y a aussi l'humiliation au sens de rabaisser. Il y a tout un ensemble de termes comme ça dans les pensées de Pascal qui font qu'on peut presque le réactualiser sans cesse, d'une manière de plus en plus moderne.
Bien sûr, bien sûr. Mais ça, je dirais ça, bon, je plaide pour ma paroisse, c'est le cas de le dire. on pourrait le dire de tous les grands philosophes, de tous ceux qui apportent quelque chose de fondamental à la pensée. Je crois que, voilà, on peut les lire et les relire, on n'en épuisera jamais le fond, et c'est ça qui est intéressant. Alors, le cœur de l'homme... Alors, oui, bon, ça, c'est une phrase sur laquelle les commentateurs s'étripent depuis longtemps, c'est-à-dire, certains disent, non, le cœur qui est plein d'ordures, c'est pas le même que le cœur qui sent Dieu. Et d'autres disent évidemment le contraire. D'autres parmi lesquels je serai, moi, même si je ne me livre pas à ce genre de combat exégétique, mais je pense que malgré tout, la signification du cœur, elle est large, mais elle n'est pas ambivalente, elle n'est pas, équivoque. C'est-à-dire, ça ne signifie pas d'un côté quelque chose de tout autre que là. Le cœur de l'homme est plein d'ordures, ça veut dire que... ça implique que le cœur n'est pas, d'une certaine manière, en lui-même, une grandeur pure. de toute, de toute corruption. Non, le cœur aussi est corrompu.
Tout est corrompu, comme vous l'avez
dit. Oui, mais c'est du fond de cette corruption, d'une certaine manière, que peut jaillir quelque chose pour sortir de cette corruption. Et donc, voilà, il ne faut pas diviniser l'homme, il ne faut pas le sanctifier, ça Pascal en est loin. Il ne faut pas le grandir trop, parce que, d'une certaine manière, il oublierait justement ce qui en fait sa limite, et par conséquent, ce sur quoi il faut travailler pour pouvoir, si ce n'est aller plus loin, du moins aller ailleurs que là où il se complaît, et où, de toute manière, il ne trouvera rien de ce qu'il cherche vraiment. Parce que je crois que, au fond, pour Pascal, et peut-être aussi pour tout vrai philosophe, il y a un désir d'absolu qui ne peut pas être satisfait dans des choses relatives ou temporaires.
C'est pour ça que voilà, ce rapt, ce ravissement, cette lumière, en fait, est presque... il en parle, mais en fait, ça se trouve, c'est toujours impossible. Je lui reprochais tout à l'heure sa dimension presque élitiste. C'est-à-dire, certains vont être élus, d'autres non. Mais finalement, est-ce que quelqu'un l'est ? Est-ce que quelqu'un aura ce...
Mais ça, on n'en sait rien.
Voilà.
Ça, ce n'est pas de notre pouvoir.
Même Pascal lui-même, en fait, semble lui-même travailler. Ce
n'est pas de notre juridiction, bien sûr. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre son cœur dans une bonne direction.
Mais on est d'accord qu'il faut travailler quand même.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr qu'il faut travailler. De toute façon, on n'a pas le choix, d'une certaine manière. Même le divertissement, d'une certaine manière, est un travail. Et même, pour certains, c'est un travail encore beaucoup plus occupant que le travail travaillant, si je puis dire. Le travail de tous les jours, bien sûr.
Pierre Guénantia, vous venez juste de dire, et on va s'arrêter là-dessus, vous avez dit, voilà, faut orienter le cœur.
Oui,
comment
faut
on fait
le mettre comment on fait ? Eh bien, vous avez le fragment sur le pari. Et à la fin du pari, celui à qui ce pari s'adresse, qui est, on dit, le libertin, on lui a démontré mathématiquement, par les probabilités, qu'il vaut mieux parier sur l'existence de Dieu que de parier sur la non-existence de Dieu. Il dit, oui, d'accord, mais j'y crois pas. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Ah, on m'a dit, ben voilà. Nous y voilà, ce qui est important. Que voulez-vous que j'y fasse ? Donc vous avouez que votre raison est impuissante à décider entre le choix de Dieu ou le choix du non-Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faites comme les gens qui croient. Abêtissez-vous, agenouillez-vous, faites dire des prières, humiliez-vous d'une certaine manière. C'est-à-dire, ne cherchez pas à comprendre par la raison, à élever votre raison jusqu'à la hauteur de l'objet auquel elle prétend. Au contraire, rabaissez-vous, faites comme tout le monde. Imiter, pratiquer,
prier,
faites des gestes.
La pratique.
Et peut-être que ça viendra. Vous voyez ? À force de faire semblant, on finit par être dans le vrai. J'y crois pas, mais bon. I see you in my dream.
Tumbling by our love. Merci beaucoup Pierre Guénantia. De vous, on peut lire « L'homme sans moi, essai sur l'identité » paru aux éditions Puf et apparaître en Quadrige. Et sur Pascal, je cite aussi « Divertissement pascalien » paru chez Hermann. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Pourquoi parle-t-on de bioéthique ? Au printemps de l'année 2026 vont être ouverts ou sont ouverts ou auront été ouverts les nouveaux états généraux de la bioéthique en France qui devront mener à une nouvelle loi de bioéthique, laquelle est révisée en effet tous les 5 ou 7 ans, en principe tous les 7 ans selon la Constitution française. Et de fait, en 2018, il y a eu une loi de bioéthique qui a proposé des avancées sur certains sujets concernant, comme le dit les statuts du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et bien concernant justement les enjeux majeurs nés des nouvelles technologies, mais aussi des dilemmes entre les êtres humains dans une démocratie, les enjeux majeurs touchant les opérations sur nos corps, entre nos corps, les opérations concernant les vivants et la santé entre les êtres humains. Alors, le paradoxe, c'est qu'il y a une loi de bioéthique, c'est que l'éthique ici semble prise d'un côté entre les pratiques médicales, les croyances des êtres humains et aussi le droit général dans la Constitution française. Il y a une loi de bioéthique qui, par ailleurs, a le paradoxe aussi d'être révisée régulièrement. La bioéthique est sujette à révision et sujette à une histoire. On peut se demander comment l'éthique peut entrer dans une loi d'abord et ensuite dans une loi révisable. Comment sont les relations entre la morale, ce que désigne le mot éthique, des principes généraux et intemporels valant entre les humains, d'un côté, une loi qui les fait entrer dans un contexte d'obligation d'un pays donné, et peut-être de plusieurs pays, puisque plusieurs ont des lois de bioéthique et des comités, et de plus, de manière variable, selon les enjeux historiques et selon les moments de la transformation de la science. Alors, comment se définit la bioéthique ? On peut justement dire déjà ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle n'est pas seulement. La bioéthique, ce ne sera pas seulement l'éthique médicale première telle qu'elle est donnée, c'est-à-dire la médecine comme lutte contre la mort. La médecine qui lutte contre le négatif dans nos vies et qui se donne un premier critère éthique très simple, c'est justement lutter contre la souffrance et nous en faire sortir et même peut-être nous procurer du meilleur et du bien vivre. Cette éthique des risques et des bénéfices qui est l'éthique médicale de base. Mais justement, peut-être qu'elle entre en conflit parfois avec d'autres principes éthiques. Par exemple, avec les principes de la violence entre les êtres humains. La naissance de la bioéthique, c'est le refus de la violence au nom de la vie, au nom de la santé, entre les êtres humains. C'est déjà le serment d'Hippocrate. Je suis médecin, mais je n'ai pas le droit de dire ce que font mes patients, de trahir mes patients. Ou bien les médecins nazis, dont le procès est à l'origine des principes de bioéthique, qui, au nom de la santé, prétendaient justifier certains de leurs crimes par opposition aux autres crimes des nazis, eh bien non, c'était des crimes quand même. La bioéthique, c'est donc aussi la confrontation de plusieurs registres éthiques, la préservation de la vie et le respect de la liberté. Mais cela ne suffit pas non plus. Bien sûr, ce sont ces contradictions que cherche à apaiser la loi de bioéthique. Mais pour cela, on pourrait dire, il y a des lois, des grands principes éthiques, il y a la médecine, et puis il y a un parlement qui suffit, et puis on discute. Eh bien non, la bioéthique ne confronte pas seulement non plus des principes de politique générale, de gauche et de droite. Quand la France a créé son comité de bioéthique, c'était pour dire, ce n'a ne relève pas seulement des valeurs politiques, il y a des représentations de la vie humaine qui peuvent traverser la droite ou la gauche, il y a un pluralisme démocratique. Voilà ce que doit concilier la bioéthique, l'éthique de la vie contre la mort, l'éthique de la liberté contre la violence, l'éthique de la pluralité des représentations du sens de nos vies, c'est le défi de la loi et de la société humaine.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe, Carla Michel, Anna Fulpin, Antoine Ravon, Nassim El-Kabli, Corinne Amar et Luna Adjla, à la réalisation Nicolas Berger et à la lecture des textes aussi, avec aussi à la lecture des textes Colin Gruel et Anaïs Isbert, à la prise de son Anthony Maillet de Santis. Pour retrouver toutes les émissions d'Avec Philosophie, rendez-vous sur le site et l'application Radio France.